Vous écoutez la voix de la Russie. Les États-Unis et la France sont les alliés en géopolitique de l'OTAN. Les Américains ont toujours fourni et continueront à fournir une aide militaire aux forces armées françaises qui mènent des opérations au Sahel en Afrique, dont l'opération Barkhane dédiée à la lutte contre le terrorisme. Cette aide n'est pourtant pas gratuite. D'après l'agence France Presse, Washington a récemment rappelé à Paris qu'il faudrait payer pour les services qui lui avaient été fournis, c'est-à-dire l'utilisation par les Français des drones de renseignement américains et la mise à disposition des avions cargo pour les besoins de l'opération Serval lancée par la France au nord Mali en janvier 2013. Washington a par ailleurs averti Paris que ce dernier aurait à payer de sa poche les frappes aériennes réalisées par son armée de l'air en Irak et en Syrie, dans le cadre de l'opération contre les terroristes de l'État islamique. À l'avenir, les frais de la mission devront être remboursés, annoncé sous couvert d'anonymat un haut fonctionnaire du Pentagone, cité par l'agence France Presse. Au micro, le géopolitologue belge Luc Michel, administrateur général d'une ONG Observation Eurasienne pour la démocratie et les élections et animateur de OED TV Afrique Média.
Tout ça est dans une série de logiques qui se conjuguent, c'est-à-dire qu'il y a d'une part la privatisation de la guerre, la réorganisation des opérations occidentales en Afrique, et il y a enfin le fait que les États-Unis sont une superpuissance, mais une superpuissance en crise économique. Le dispositif français a été remanié, c'est la fameuse opération Barkhane. Auparavant, tout était parti en fait des interventions françaises, notamment en Côte d'Ivoire. En 2007-2008, George Bush a lancé le fameux commandement de l'US Army pour l'Afrique, l'Africom. À partir de ce moment-là, au même moment, Sarkozy et puis Hollande ont totalement réintégré la France dans l'OTAN. On leur a donné quelques compensations qui sont des compensations de prestige, mais qui coûtent cher en fait, c'est-à-dire que les généraux français, devenus généraux français de l'OTAN, ont eu quelques commandements et l'impression qu'ils étaient importants, notamment lors de l'agression contre la Libye. À côté de ça, évidemment, on a remanié tout le dispositif français en Afrique saharienne et subsaharienne. Comment ça se présente aujourd'hui? On part en fait d'un concept, c'est-à-dire que pour les géopoliticiens américains et les géostratèges de l'US Army, l'Afrique n'existe pas en tant que continent. C'est-à-dire que pour eux, l'Afrique les intéresse jusqu'à la zone subsaharienne en tant que frontière. On dit un limès en termes géopolitiques, c'est comme ça que les Romains appelaient leurs frontières, en tant que limès du grand Moyen-Orient qu'ils essayent de remodeler et de l'Eurasie qu'ils entendent contrôler contre la Russie. Lorsque l'Africom est créé, il y a une base américaine qui est en Éthiopie. Aujourd'hui, il y en a 34. Si vous prenez une carte, elles sont réparties au bas de l'Afrique subsaharienne en croissant. Ce sont comme par hasard, face à tous les pays qui aujourd'hui ont des problèmes de terrorisme, ont des problèmes de djihadisme, ont des problèmes d'instabilité, ont des problèmes de sécession. Entre cette espèce de coin qui occupe le sommet de l'Afrique algérienne et le croissant des bases militaires, eh bien, il faut de l'infanterie coloniale pour nettoyer le terrain. C'est le rôle qu'on a donné aux Français. À quoi servent les Français? À une série d'opérations de nettoyage. Mali, Centrafrique, Côte d'Ivoire. On commence à parler Cameroun. Les Camerounais ne veulent pas des Français. Et donc, la France sert d'infanterie coloniale. Seulement, il y a un problème à tout ça. C'est que la France, qui est très arrogante, c'est maintenant l'armée d'un petit pays qui est en profonde crise économique. La France n'a donc pas ce qu'on appelle les gros porteurs. C'est-à-dire, en termes militaires, on appelle ça les moyens de projection. Donc, pour transporter ses troupes, ses matériels, ses approvisionnements, et elle fait appel aux États-Unis et à l'OTAN. C'est le problème que vous avez soulevé. Donc, qui sert à ça? Les gros porteurs de l'OTAN, essentiellement les Belges et les Allemands, pour des raisons qui sont liées à un certain nombre d'opérations coloniales que la Belgique, la petite Belgique a menées. La Belgique a une petite flotte de Hercule, de gros porteurs. Systématiquement, dans toutes les opérations de l'OTAN, la Belgique est partie prenante. L'Allemagne, évidemment, de Mme Merkel. Et troisièmement, évidemment, les gros porteurs de l'US Army et de l'US Air Force, qui sont stationnés notamment à Ramstein en Allemagne. Le problème, évidemment, c'est que les États-Unis se sont lancés dans une série d'opérations militaires. La guerre moderne coûte de plus en plus cher parce que les matériels coûtent de plus en plus cher. Un char, un blindé de 1970 avec pas d'électronique moderne, ou un blindé de 2014 qui est bourré de caméras thermiques, qui est en liaison avec des satellites, qui a de l'informatique à bord, les prix ont été multipliés par 20, par 30, par 50. Donc l'armée américaine n'a plus de grands moyens. Deuxièmement, l'armée américaine, les budgets partent dans la privatisation de la guerre. N'ayant plus assez de soldats, ils utilisent toute une série de ce qu'ils appellent des co-contractants, et que nous appelons d'un mot plus réaliste, qui sont les mercenaires. Ce sont les firmes dont nous avons souvent parlé, Igor, à propos de l'Ukraine et de l'Afrique, c'est les Blackwater, les Academy, les groupes dits. Et donc, maintenant, l'US Army est devant un problème, il n'y a pas un budget suffisant en 2015 pour toutes les opérations. On demande à la France de payer une opération qu'elle est en train de mener au service des intérêts américains. La France, simplement au Niger, avec Areva et la production d'uranium, elle en retire des bénéfices importants. Mais ailleurs, le coût des opérations commence à être équivalent au coût tout simplement de ce que rapportent les restes de l'Empire colonial français. Derrière tout ça, évidemment, il y a un grand phénomène qui ne concerne pas que l'Afrique et les États-Unis, c'est la privatisation de la guerre qui est voulue à la fois par les stratèges du Pentagone, mais aussi qui est dans la logique de la globalisation.
Monsieur Luc, l'armée américaine a fourni aux militaires français du renseignement, des drones de surveillance, des avions de transport, etc. Maintenant, la France doit rembourser ces frais. Est-ce qu'on a déjà discuté de quelles sommes il s'agit ?
Mais ce sont des sommes qu'on ne définit pas. Le renseignement, en fait, ce sont des images satellites. Ce qui est un incident, finalement, ou un fait qui est scandaleux. Du regard, il faudrait que les Français se soulèvent contre ça. Mais ça révèle l'abaissement de la France. C'est-à-dire que dans les années 60-70, la France était la seule puissance en Europe qui s'opposait réellement aux Américains. C'était la politique du général de Gaulle, qui avait quitté, évidemment, le commandement politique de l'OTAN, qui avait fait partir le commandement général de l'OTAN, qui est parti de France, de Fontainebleau, près de Paris, à Mons, en Belgique. Et donc, la France avait une politique indépendante. Ça a duré jusqu'aux années 90. C'est à ce moment-là que j'ai été le premier à en parler. On parlait d'un axe Paris-Moscou, puisque le général de Gaulle, dès les années 60, avait lancé une politique russophile. Il a parlé d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Bon, de Gaulle voulait une Europe qui soit dans les mains des Européens. Petit à petit, les Américains ont remis la main sur la politique française. Ils ont lancé un programme avec une fondation qu'on appelle la French American Foundation, qui a été lancée au début des années 80. Il s'agissait de prendre en main des jeunes décideurs français, monde des médias, monde de la politique, monde des affaires, les aider dans leur carrière et en faire ce que moi j'appelle un parti américain, un cheval de Troie américain en Europe. Ils ont eu une réussite très importante puisque dans le gouvernement Hollande actuel, il y a 11 membres qui ont été formés dans les années 80, 90 et 2000 par cette French American Foundation. Et donc, la France de François Hollande, elle a achevé le mouvement que Sarkozy, dont l'ambassadeur des États-Unis à Paris, disait que c'était le plus pro-américain des présidents français. Moi, j'ai dit que c'était un néocon à passeport français, mais c'est ça. Et donc, la France, maintenant, est assujettie à l'OTAN. Elle est abaissée, elle est humiliée. Elle a abandonné totalement la politique pro-russe, comme on l'a vu avec l'affaire des Mistral, ou comme on le voit en Ukraine. Et maintenant, évidemment, cette France est devenue le meilleur domestique, parce qu'on ne parle plus d'alliés, des États-Unis en Europe et en Afrique. Maintenant, en plus, pour faire cette sale politique, il faut quand même dire les choses comme elles sont, pour lequel des jeunes Français meurent chaque jour quasiment. Il y a des jeunes Français qui meurent en Afrique, en Afghanistan, etc. Ils meurent pour les intérêts de Washington, pas pour les intérêts de leur pays. On en arrive donc à ce que maintenant les Français vont devoir payer. Ils vont devoir payer quoi ? Le service de domestique qu'ils font au service de l'armée américaine. Derrière tout ça, Igor, il y a aussi la privatisation de la guerre. L'armée française s'apprête à louer ses blindés et son matériel militaire à des firmes de leasing. Les Français sont en train de créer des firmes de leasing de matériel militaire, mais qui est scandaleux, puisque finalement, le principe du leasing, c'est que vous payez beaucoup plus cher. Qu'est-ce que c'est la privatisation de la guerre ? c'est la logique de la globalisation libérale introduite dans la guerre. C'est-à-dire que la guerre devient un business comme les autres. On loue du matériel, on loue du personnel, ce sont les mercenaires, les co-contractants, on loue des satellites. Et deuxièmement, la guerre devient une affaire privée, puisque actuellement, une grande partie des tâches militaires en Afghanistan, par exemple, en Irak, où l'US Army est toujours présente, et dans d'autres zones du monde, est sous-traitée à des firmes privées. Le renseignement à des agences de renseignement privées, tâches de sécurité et de combat à des firmes de mercenaires, comme toutes les firmes qui sont issues de l'ancien groupe Blackwater. Et maintenant, on est au troisième stade, c'est-à-dire le leasing de matériel militaire. Derrière tout ça, il y a deux choses. Il y a d'une part, évidemment, la volonté d'hégémonie mondiale des Américains. Les stratèges américains comme George Friedman, comme Brzezinski, continuent à parler d'un 21e siècle américain. Mais à côté de ça, il y a les profits du grand business international avec des firmes spécialisées dans la guerre. L'homme qui a lancé tout ça, c'est le gouvernement des néoconservateurs de George Bush avec l'agression contre l'Irak en 2002, puisque l'homme fort du gouvernement, c'était Dick Cheney. C'était aussi le leader politique des fameux néocons, les néoconservateurs, mais Dick Cheney était aussi le patron d'Halliburton. Halliburton, c'est un immense conglomérat industriel, financier de services, spécialisé dans le pétrole et spécialisé dans la sécurité. Ça veut dire qu'en allant détruire l'Irak, par exemple, eh bien, Dick Cheney a fait la fortune d'Halliburton, puisque c'est Halliburton qui a obtenu les marchés de reconstruction. Ce sont des firmes de mercenaires gravitant autour qui ont assuré la sécurité pendant des années. Et ce sont des firmes de renseignement privés qui assuraient aussi une partie de la sécurité. L'étape suivante, elle est claire, ça va être les satellites militaires privés. Et on parle même dans un demi-siècle de plateformes militaires de missiles dans l'espace qui seront aussi assurées en partie avec des capitaux et des firmes privées. La France, au milieu de tout ça, c'est devenu un petit poisson. C'est un piranha dans un aquarium de requins, si vous me permettez l'expression. La France est très dangereuse pour les populations africaines parce que face à des armées qui n'existent pas, comme le Mali, comme la Centrafrique, le Cameroun c'est différent, il y a une grande armée au Cameroun, mais ailleurs pas, la France est une armée redoutable évidemment. Mais par rapport à l'armée américaine, ou aux forces de l'OTAN, la France est un tout petit poisson. C'est un pays qui vit, c'est ça qui est le plus scandaleux, c'est un pays qui vend sa suggestion à l'OTAN, à l'atlantisme, aux Américains, avec les souvenirs passés de sa grandeur, du temps, ça va jusque Napoléon, mais surtout la grandeur du général de Gaulle. On voit même des gens comme Sarkozy, mais avant Louis Chirac aussi, ça a commencé avec Chirac, tout ça. Ce sont les deux présidents qui ont totalement détruit l'héritage du général de Gaulle.
C'est un peu drôle. Washington, quand il commence la guerre en faveur des libertés, des droits des hommes, là, après il impose de l'argent en cas de victoire.
Il faut dire une chose, Igor, c'est-à-dire que on ne comprend pas ça si on ne comprend pas que la logique de l'Empire américain, ce n'est pas la logique politique qui était celle de l'Empire romain, par exemple. C'est la logique marchande. Quelle est la logique de cet empire? C'est de dominer politiquement, mais pour faire de l'argent. Il y a un président américain qui a dit que ce qui était bon pour l'Amérique était bon pour le business et devait être bon pour le business. Donc, la logique des Américains, c'est quoi? C'est de dominer pour contrôler des marchés, pour assujettir des marchés. Lénine a très bien expliqué ça dans l'impérialisme stat ultime du capitalisme, où il explique que la guerre de 1914-18, elle a résulté du fait qu'il n'y avait plus de marché disponible. L'ascension des États-Unis, c'est la globalisation qui l'accompagne, c'est la lutte pour les marchés. Lorsque la Russie a un budget militaire, elle entend défendre sa liberté et sa puissance. C'est de l'argent perdu. L'argent qu'on met dans les S-400 ou les S-500 pour protéger la Russie, c'est de l'argent qui ne va pas dans la consommation privée. Les Américains sont dans dans une logique différente. C'est-à-dire que pour eux, l'industrie du lobby militari-industriel, elle tourne pour faire de l'argent. Il ne faut pas oublier que les Américains sont devenus une grande puissance mondiale, mais aussi économique, avec la guerre de 14-18, et ils ont relancé leur économie après le crash de 1929, pas comme on l'a expliqué avec le New Deal de Roosevelt, qui a eu des succès très limités, mais l'économie américaine a vraiment été relancée avec la Seconde Guerre mondiale. Tout d'abord, en donnant ce que Roosevelt appelait l'arsenal des démocraties, mais il vendait toutes les armes qui ont été données à Churchill, par exemple, l'Angleterre les a payées. C'était des prêts, on appelait ça le prêt bail, donc le prêt location. Et donc, après 1945, l'Amérique a de nouveau relancé son économie et fait énormément d'argent avec la reconstruction en Europe et en Asie, notamment le plan Marshall. Le plan Marshall, c'est pas de l'argent donné, il a été remboursé. Il faut arrêter de penser que les Américains sont généreux et sont un peuple philadèle. C'est un peuple intéressé à faire de l'argent et c'est un peuple pour lequel les amis ne représentent des sources de revenus. Donc chaque fois que l'Amérique intervient dans un pays, qu'elle aide une armée, qu'elle fait quelque chose, il faut payer. Tout ça évidemment ne sert pas au peuple que l'on vient aider, il sert au grand business américain. C'est malheureusement là-dedans que la France aussi vient de tomber. Vous savez que moi je suis de culture française, donc je considère la France aussi comme mon pays. Je suis partagé entre un sentiment de honte pour le gouvernement français qui a accepté ça, et d'humiliation pour tous les Français qui doivent supporter un tel traitement, c'est-à-dire devenir finalement une annexe néocoloniale de l'armée américaine.
Vous avez écouté les propos recueillis par notre commentateur Igor Yazon. Retrouvez cette interview de Luc Michel sur notre site web www.frege.ruvr.ru.